Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous accueillir à bord de notre cargo Radio Caroline, qui, au fil des déjà 9 saisons, a eu l'occasion de sillonner les histoires passionnantes de labels, de compagnies discographiques mondialement célèbres et pourtant nées modestes, mais avec de la passion et de l'ambition plein les réservoirs, comme Virgin, Stax, Mute ou Atlantic. Eh bien, aujourd'hui, nous allons embarquer pour l'histoire, elle aussi incroyable à sa façon, d'une firme discographique belge créée il y a plus de 40 ans et qui deviendra au fil des décennies l'une des plus importantes compagnies indépendantes internationales, à tel point qu'elle a récemment fait saliver la plus grande multinationale mondiale Universal. Je veux bien sûr parler de Pias, née Played Against Sam à Bruxelles en 1982, et dont les premières lettres formeront cet acronyme PIAS, P-I-A-S. Une compagnie grâce à laquelle, directement ou indirectement, des artistes aussi différents que Front 242, Miossec, Deus, Agnès Obel, Girls in Hawaii, Jean-Louis Murat, Solwax, Arnaud, Mélanie DeBiasio et bien d'autres trouveront un écrin où s'épanouir ou un tremplin pour rebondir et faire connaître leur musique chez nous et dans le monde. Une histoire qui, je le disais, commence au début des années 80 grâce à la rencontre d'un Bruxellois de 19 ans et d'un Belgo-British de 20 ans et qui grandira avec d'autres rencontres de Londoniens ou Parisiens capés, mais aussi de petits gars visionnaires venus de Namur, Charleroi, Bastogne ou, last but not least, Bièm Soutouin. Plantons le décor et situons le contexte. À l'orée des années 80, musicalement, Bruxelles est plus que jamais bouillonnante, avec de nombreux petits labels qui poussent comme des champignons. Si Marc Moulin, homme de radio novateur, mais également musicien et créateur du groupe électropop Telex, avait déjà ouvert la voie en 77 en créant l'éphémère label Kamikaze, premier producteur des Tueurs de la Lune de Miel, d'Aksak Maboul et donc de Marc Hollander. Ce dernier, Marc Hollander, lancera en 1981 Cramped Disc, un label donc histoire de poursuivre l'aventure des artistes que l'on vient de nommer, mais aussi de signer Minimal Compact ou encore Tuxedomoon. La même année 1981, Gilles Verland lancera quant à lui Scalp Records, dont la prise de choix se nommera Allez Allez. Et entre-temps, en 1980, Michel Duval et Annie Connoré ont créé les Disques du Crépuscule, compagnie qui produira Cabaret Voltaire, Paul Haig, Wim Mertens ou encore Anna Domini. Cela dit, au début, pour Michel Duval et Annie Connoré, il s'agissait surtout de distribuer de ce côté-ci de la mer du Nord les productions du fameux label de Manchester, Factory Records, via une filiale, Factory Benelux. Factory dont, justement, à Bruxelles, un jeune anglo-belge qui a poussé ses premiers cris à XL, Kenny Gates, ne rate pas la moindre production, à tel point que ses amis le surnomment Factory Boy. En revanche, il ne se remettra quasiment jamais d'avoir raté au plan K, mythique salle bruxelloise alors aux avant-gardes, les deux premiers et derniers concerts belges d'un groupe phare de Factory Records, Joy Division. Et pour cause, trop jeune à l'époque, sa mère ne l'avait pas autorisé à s'y rendre. En revanche, il est un autre lieu bruxellois dédié à la musique qu'il peut fréquenter, le disquaire Casablanca Moon. Comme le rock critique français Jean-Daniel Beauvallet, grande plume des Un Rock, le raconte dans un chapitre belge de son récent City Guide, évoqué d'ailleurs ici il y a quelques mois, je le cite, « Casablanca Moon est un magasin de disques qui est une sorte d'ambassade bruxelloise dédiée aux nouveaux sons, le plus souvent anglais, et s'improvise également distributeur. Une fois par semaine, Michel Lambeau, l'un des deux tauliers, part à Londres en Renault 5 pour puiser à la source les nouveautés qui font la réputation de son antre. Il tisse un précieux réseau avec les labels anglais, tente d'en comprendre les rites, d'en décrypter l'économie hasardeuse, et pour gagner leur confiance, il distribue dans toute la Belgique les nouveautés qu'il déniche. » Mais Casablanca Moon, le magasin s'avère assez intimidant, hostile même pour les clients dont la tête ne revient pas au vendeur, sadique paraît-il. C'est un vrai lieu alternatif décoré des affiches d'extrême gauche de Bader-Meinhof et le staff est à l'avenant. Kenny Gates, lis-je encore, se souvient de sa première visite avec un effroi intact. Le gars derrière le comptoir me regarde d'un air méfiant. Il est maquillé, porte des boucles d'oreilles et a visiblement pris des amphétamines ou du speed. La musique joue très fort, à la limite de l'assourdissement, de la musique industrielle. Et je me rends compte alors que je ne connais aucun des albums, aucun des artistes du magasin. Nous nous trouvons donc au début des années 80, à Bruxelles, rue de l'Hôpital, entre la gare centrale et la Grand Place, chez le disquaire nommé Casablanca Moon. Et là, dans l'arrière-salle de la boutique, l'un des tauliers, je le disais, Michel Lambeau, 19 ans, gère le petit label qu'il a créé, Sandwich Records, glissant lui-même les vinyles dans les pochettes et puis les disques dans les cartons. Sa première production fut celle de Polyphonic Size, groupe bruxellois mélangeant synthétiseurs, guitare électrique et mots en français, anglais ou allemand, et dont le premier EP, single 4 titres, est sorti en 1979.
Sans hésiter, sans paniquer.
Après un deuxième single, son leader, Roger Marc Van de Voort, contactera le bassiste des Stranglers, Jean-Marc Purnell, afin qu'ils produisent leur troisième essai, titré « Nagasaki, mon amour ». Mais lorsqu'il s'agira de sortir le premier album de Polyphonic Size, Sandwich Records, le petit label de Michel Lambeau, est à sec et Casablanca Moon, son magasin de disques, en passe de mettre la clé sous la porte. Et c'est là qu'intervient de façon déterminante ce client assidu, le jeune Kenny Gates, qui a plus ou moins 20 ans. Michel Lambeau, c'est un fou, un punk, un explorateur impressionnant d'intelligence, racontera Gates bien plus tard. Il avait créé Sandwich Records et payé l'enregistrement du premier album de Polyphonic Size avec Jean-Jacques Burnell. Et moi, je lui ai prêté 20 000 francs belges pour le pressage du disque qu'on est allé vendre dans sa vieille bagnole pourrie de magasin en magasin sur les routes de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Ce sera l'acte fondateur du futur distributeur et label Played Against Sam, qui naîtra en 1982, les deux garçons décidant d'unir leurs forces dans une nouvelle structure. Au fait, pourquoi ce nom, Played Against Sam ? Clin d'œil à celui du magasin Casablanca Moon, Casablanca comme le film culte du même titre, dans lequel Ingrid Bergman demande au pianiste du bar, Sam, d'encore jouer cet air.
Play it, Sam. Play. As time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh, just a sigh.
Play It Sam, qui deviendra Play It Again Sam, avec un piano à queue noire vu de haut en guise de logo, puisqu'il se trouve aussi dans cette séquence que l'on vient d'écouter. Play It Again Sam, bientôt résumé, on le disait à ses initiales P-I-A-S, Pias. Il y avait une certaine insouciance dans les années 80, se souvient Kenny Gates, on a tenté le truc, mais en se disant dès le départ que ça devait être 50% de passion et 50% de business. J'en reviens toujours à évoquer le mot musique business dans lequel tu as les deux aspects. Je reste persuadé que le succès de Pias, c'est d'être parvenu à cet équilibre entre les deux concepts, parce que s'il n'y avait eu que l'aspect romantique et insouciant, ça n'aurait pas duré 3 ans. Dans un premier temps, Played Against Sam, Pias, s'occupera de la distribution en Belgique des disques de différents labels étrangers, mais aussi belges. La distribution, c'est-à-dire le fait de fournir à tous les disquaires, quand il y en avait encore, sur un territoire donné, des disques qu'ont produit d'autres labels qui n'ont pas de distributeurs sur ces territoires donnés, ou des disques qu'on a soi-même produits. Parmi les premiers actes de Pias, la distribution en 1982, du single The Alien d'un groupe belge nommé Venise, bientôt suivi par celle du premier maxi 4 titres des Belges Front 242. Groupe avec qui la collaboration s'intensifiera en 1987 pour leur album Front by Front. Cette fois, Pias en est non seulement le distributeur, mais aussi le financier. Headhunter, un titre qui bénéficiera d'une vidéo signée par le très couru photographe et réalisateur Anton Corbijn, un clip en noir et blanc où défile des plans de l'Atomium et de la cité administrative de Bruxelles. Anton Corbijn, qui signe aussi les pochettes et vidéos de Depeche Mode à l'époque, Depeche Mode dont Front 2K2 assure alors les premières parties. Front by Front, ça a été un gros album qui a touché l'Allemagne, mais aussi les États-Unis, se souviendra Kenny Gates. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'un des deux boss de Pias est alors très impliqué non seulement dans les productions, mais aussi dans la vie du groupe Front 2K2, ce compris dans le service après-vente. Une nuit, à 4 heures, je reçois un coup de fil où j'apprends que le chanteur de Front 2K2, qui devait donner un concert à Francfort, s'est barré après une engueulade avec un autre membre, raconte Kenny Gates. Je le retrouve à Bruxelles, le persuade de réintégrer le groupe, après quoi je me taperai 6 heures de route pour le reconduire à Francfort. Nos deux amis arriveront un quart d'heure avant le concert, au sein d'une ambiance interne chauffée à blanc. Mais pour ce qui concerne la musique électronique en cette seconde moitié des années 80, ça se vend aussi en mode New Beat. La New Beat, c'était incroyable, se rappelle encore Kenny Gates, du jour au lendemain, des petits disquaires à Dist ou à Lear, à qui on vendait difficilement 5 imports anglais, nous commandaient jusqu'à 50 exemplaires d'un truc, simplement parce qu'un gars avait passé le 45 tours en 33 tours dans un club et que tout le monde avait trouvé ça dingue. Des milliers de maxi circulent et Pias est en plein centre du mouvement avec bien sûr le Boccaccio, cette fameuse boîte près de Gand. En gros, le phénomène va durer 3 ans. Dans la foulée, Pias ouvrira des bureaux aux Pays-Bas, à Londres, à Paris et un peu partout en Europe afin d'y distribuer des artistes qui bénéficieront de la compétence de cette compagnie, mais aussi de sa compréhension de la musique des artistes en question. Des gens qui sont des passionnés et traiteront à chaque fois les musiciens avec respect. Mais Pias s'occupera aussi de la distribution de très gros artistes internationaux pour le Benelux, ce qui n'est pas rien, les Pays-Bas, outre la Belgique, constituant un marché non négligeable. Ce sera le cas de Depeche Mode dès 1992, avec l'album Songs of Faith and Devotion, et puis des artistes du label anglais Mute qui produit Depeche Mode.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Au fil des années et des décennies, Pias s'occupera également d'artistes francophones, je veux dire chantant en français. C'est le cas en 1986 de Daniel Darc, ex-chanteur de Taxi Girl. Kenny Gates s'explique. Son album Sous influence divine, c'est l'une des toutes premières productions de Pias et ma vraie rencontre avec le rock'n'roll. Cette fois, il ne s'agit plus simplement pour nous de distribuer, mais bien de produire, de financer l'album d'un artiste. Jacques No, qui va réaliser le disque d'un point de vue artistique, me jure qu'il a décroché de l'héroïne et qu'il fera en sorte que Daniel Darc décroche lui aussi. Mais pour compenser, il me dit qu'il faut acheter du vin rouge. Donc chaque matin, je vais chercher une douzaine de bouteilles de Côte-du-Rhône. Et puis un jour, Daniel Darc me demande de lui faire un garrot dans les WC du studio Pyramide à Bercelles. Si j'avais dû parier sur sa survie, je ne l'aurais pas fait. Première rencontre rock'n'roll dans tous les sens du terme, mais en ce qui concerne Darc, pas avec le succès, le disque passant totalement hors des radars. Il en ira tout autrement avec Miossec en 1994. Kenny Gates reçoit un jour la démo de ce qui deviendra l'album Boire. Il le signe instantanément, il s'en vendra 250 000 exemplaires. Et Pias gagne sur les deux plans, en tant que label, producteur, puisqu'il a financé le disque, et en tant que distributeur, puisque Pias est désormais implanté dans plusieurs pays d'Europe, et en l'occurrence, pour Miossec, en France.
Je vous téléphone encore, ivre mort au matin.
Suite à cet embrasement, Miossec sera dragué par les plus grosses maisons de disques françaises, mais comme beaucoup, il restera fidèle à Pias. Une firme, un gros indépendant, désormais international, qui en 1998 fêtera ses 15 ans. L'occasion pour le JT de la RTBF de se pencher sur cette réussite. L'occasion aussi d'un petit récap. Alors vous entendrez Kenny Gates, puis Michel Lambeau. Et les sommes d'argent dont on cause sont évidemment, 1998 oblige, en francs belges.
Quel est le point commun entre Mio Sec, Dépêche Mode, Nick Cave et Stella? Eh bien, tous ces artistes sont produits ou distribués dans le Benelux par Play It Again Sam, une maison de disques basée à Anderlecht. Et Play It Again Sam, après 15 ans d'existence, c'est une affaire qui marche. Pour cette maison de disques, tout a commencé en 83. Les fondateurs réunissaient 250 000 francs pour créer une SPRL.
C'était un hobby à la base. On voyageait en Angleterre, on allait acheter des disques, on les importait et on les vendait en Belgique. Ça a commencé comme ça.
Aujourd'hui, la firme affiche un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs. La petite entreprise est devenue grande. Elle s'est installée en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre. Elle emploie 350 personnes. En Belgique, Play It Again Sam s'est bien implantée malgré une forte concurrence des multinationales.
Au niveau international, il y en a beaucoup qui seraient heureux de nous voir disparaître, je crois.
Vous êtes dérangeant ?
Oui, je crois que pour une multinationale, voir un label indépendant signé Prodigy ou Depeche Mode, artiste qu'on représente dans le Benelux, et vendre 7, 8 millions de 10 dans le monde, il y a une valeur d'échec. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent.
5 milliards de chiffres d'affaires, 7 à 8 millions d'albums vendus dans le monde, les chiffres donnent le tournis. En 1998, Play It Again Sam est l'une des rares sociétés belges à s'être fait un nom sur un marché porteur, celui du disque.
Kenny Gates l'a toujours dit, Pia, c'est 50% de passion, 50% de business. Et le business passe aussi par l'image, le branding, les slogans. Et à l'époque, c'est un ami de Gates, Thierry De Soif, qui s'en occupe et qui cherche à bien faire comprendre au business international du disque ce qu'est Pia. Société certes internationale, mais indépendante et à forte personnalité.
Prends l'exemple de Virgin dans les années 80. Tu sais très bien que Pia est quelque part la maison de disque rebelles des années 90, et forcément ils avaient envie d'affirmer leur image par rapport aux multinationales du disque, aux majors, comme on l'a si bien dit dans la communication, et voulaient montrer qu'ils étaient différents et comment, et par rapport à tout le milieu du disque, aux disquaires, aux artistes, aux managers et in fine à ceux qui aiment la musique que produit Piast, ils voulaient montrer qu'ils étaient différents. Mais la différence, elle est essentielle dans la mesure où Piast est une boîte indépendante, on le sait. C'est une boîte rebelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils affirment leur indépendance, notamment par le slogan qu'on leur a trouvé il y a quelques années, Indie or die, indépendant ou mourir. Et pour eux, c'est très important d'aborder leur métier par la passion, ce qui n'est pas le cas des majors, des multinationales qui voient d'abord la rentabilité de leurs artistes avant tout, tandis que Pias est une boîte à la tête de laquelle on trouve les fondateurs, qui ont la passion de la musique avant tout. Bon, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel.
Et pour bien enfoncer le clou de la spécificité d'un indépendant, écoutons Michel Lambeau en 1998 toujours.
Quand un groupe signe chez une major, les patrons, ils sont nommés pour une période par un conseil d'administration qui lui-même change. Et ce conseil d'administration, il est nommé par la bourse, qui nomme ce conseil d'administration au cours des fluctuations de cours boursiers. Chez nous, la différence, si Kenny et moi, comme actionnaires, on pense que Kenny et moi, comme patron, on agit bien, et que Kenny et moi, comme directeur artistique, on ne se trompe pas trop, on va avoir du mal à trouver une contradiction entre nos différents rôles, puisqu'on est les mêmes personnes. Voilà la différence entre un indépendant et un major.
On l'a dit et compris, parallèlement aux activités de production du label Pias, c'est la distribution qui a offert à la société belge son rayonnement international. Mais si Pias distribuera de nombreux labels étrangers, elle distribuera aussi, on l'a également évoqué, les disques de petits labels belges qui, à défaut de structures suffisantes, ont eu du flair et du talent pour dénicher des artistes. Mais il est un petit label qui, fort de ses succès et pour des raisons capitalistiques, finira par aller plus loin, par s'associer avec Pias. Je veux parler de Bang, dont l'histoire ne manque pas de saveur. Pour Bang, tout commence à Jambes, près de Namur, avec la distribution de disques américains, anglais et australiens indépendants, introuvables en Belgique. La firme crèche d'abord dans un bout d'entrepôt, puis dans un garage glacial, l'hiver en tout cas, où un jour le PC tombera même en panne de froid. Bref, une petite boîte totalement roots, avec à la manœuvre Renaud Thierry, namurois, et Alain Georges de Bastogne, bientôt rejoint par le Carolo Christophe Wettens et Damien Oisel, originaire de Biem-Sous-Thouin. Un jour, nos amis reçoivent une démo en provenance d'Anvers, un morceau qui s'appelle Zi, enregistré par un groupe flamand dont personne jusque-là n'a voulu Deus. En fait, c'est le responsable des collections pop, rock, électronique et expérimentale de la médiathèque, et par ailleurs organisateur de concerts, Alain Boll, qui a conseillé à nos amis flamands de contacter nos amis wallons. Le coup de foudre est immédiat à l'écoute de ce morceau reçu par la poste et le lendemain, les Anversois débarquent à Jambes pour signer. Mais pour produire le groupe, leur faire enregistrer leur morceau de façon professionnelle dans un vrai studio, puis payer la pochette, le pressage et tout ça, le distributeur Bang va devoir se doter donc d'un label qui portera le même nom, un peu comme Pias en somme, et rassembler 2 millions de francs belges. Le disque Worst Case Scenario sort en 1994. C'est un carton. 150 000 exemplaires seront vendus. In a Bar Under the Sea sortira 2 ans plus tard. Nouveau succès. Pour la distribution, pour approvisionner les disquaires, eh bien, ce sera la débrouille par Chronopost, une camionnette sillonnant tout le pays pour délivrer les disques. Et quand ça ne suffira pas, nos amis prendront eux-mêmes leur voiture, comme au bon vieux temps, comme à leur début. Mais avant de les distribuer, ces disques, encore faut-il les entreposer. Et comme le garage, très souvent, n'y suffira pas, va pour une montagne de caisses sur le trottoir, sous surveillance. Après ces 2 albums, Deus partira vers d'autres eaux anglaises, mais Bang est lancé. À la fin des années 90, Damien Oisel et Christophe Wettens reprendront seuls la barre. Côté production, Charcot sera une autre belle prise, mais à nouveau, c'est du côté de la distribution que les choses vont s'embraser. De très branchés labels parisiens ayant eu vent de la réputation de nos Quick et Fluc à l'indiscutable professionnalisme, en plus d'être très cool. C'est ainsi que Bang distribuera quelques fleurons de la scène électro-française, dont les très rentables compil lounge Bouddha Bar de Claude Chal, les artistes des labels atmosphériques, Louis Chédy, Tahiti 80, ou encore celles et ceux du label Naïve, dont l'album d'une certaine Clara Bruni, qui restera 9 semaines en tête des ventes et 60 semaines dans l'ultra-top belge. Après divers rapprochements, Bang fusionnera avec Pias en 2009. Et désormais, au sein du groupe Pias de Kenny Gates et Michel Lambeau, Pias Belgique, dont Damien Oisel deviendra le général manager, distribuera chez nous, outre des artistes qu'on a déjà cités, certains Français comme Aaron, Jean-Louis Murat, mais aussi des artistes belges, Arnaud, ou encore Girls in Hawaii, Soul, Été 67 et Suarez, que leur ont apporté Philippe de Coster et le regretté Pierre Van Brakel. Toujours à l'affût des meilleurs sons rock et électro, Pias pourra se targuer d'avoir également distribué les Pixies, Offspring, Prodigy ou encore Moby, mais également d'avoir produit Soul Wax, Mélanie de Biasio ou encore, en 2009, d'avoir signé Agnès Obel dans la foulée d'un petit concert privé que la chanteuse avait accepté de donner dans l'arrière-salle d'un bar allemand au piano électrique devant 4 ou 5 personnes, dont les boss de Pias. Banco, les disques d'Agnès Obel se vendront par centaines de milliers. Le succès de Pias ne se démentira pas malgré la mutation du business musical. N'empêche, en 2024, 42 ans après sa création et après être devenu le plus grand distributeur de labels indépendants au monde, Pias sera cédé par Kenny Gates et Michel Lambeau à Universal. C'était le moment, on dirait. Gates restant cependant à la tête de la branche production de Pias avec une totale autonomie au sein du groupe Universal. Michel Lambeau, lui, préférera se retirer. Une chose est sûre, Kenny Gates n'oubliera pas l'idée et l'envie qui a sous-tendu l'histoire de Pias, de Play It Again Sam, depuis 1982, rayonnée à l'étranger. La Belgique est un petit pays, dit-il, mais qui a une culture musicale supérieure à celle de nos voisins. Quand tu vois le nombre de groupes qui sont sortis d'ici, Franck de K2, Deus, Girls in Hawaii, aujourd'hui Balthazar, BRNS, Mélanie de Biasio, Oscar and the Wolf, par rapport aux Pays-Bas, à l'Allemagne et même à la France, c'est énorme. Avec Pias, on a réussi à aider à développer un esprit musical avec une vraie touche bruxelloise à travers l'Europe. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et bien voilà notre voyage à travers l'histoire assez méandreuse de Pias se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
We're on the Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.